Vous n'avez jamais eu à vous battre. Les choses vous ont toujours été servies sur un plateau. Et vous vous sentez coupable de ça. Eh bien, puis-je dire, et je parle au nom de ceux qui ont été forcés de se battre pour gagner leur place et qui n'en éprouvent pas la moindre culpabilité. Nous sommes tous lassés de ces fainéants qui prennent, prennent, prennent et ne contribuent pas aux besoins de la société. Et vous montrez la même lâcheté, la même extrême lâcheté pour faire face à l'Union européenne ces jours-ci. Cette pleutrerie pour la souveraineté de votre patrie et l'intégrité de sa monnaie. Nombre d'entre vous voudraient parvenir à un accord. Ils voudraient pour ça faire des concessions. Et certains seraient même prêts à adopter les propositions des Français d'après les rumeurs. Eh bien, pourquoi ne pas embarquer pour Calais, hein? Pourquoi ne pas enfiler un béret et payer 85% de vos émoluments à ce bon gouvernement français?
Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Bonsoir, bienvenue sur RDIWA. Vous écoutez le 107.5 FM ou le stream sur... voilà, tu vois, tu rigoles dans le studio. Sur www.rdwa.fr. Et vous écoutez actuellement l'émission Arrête ton cinéma avec Gwen.
Bonsoir.
Et Becky.
Salut.
Et moi-même. Bonsoir.
Anaël.
Anaël.
Donc, pendant deux émissions, pendant deux semaines, on va aborder le thème de la politique.
Au cinéma.
Au cinéma, évidemment.
C'est mieux.
Et on commence par la partie 1 aujourd'hui, avec plein de surprises sur plutôt les femmes.
Oui, tout à fait.
Gwen a parlé de féminisme.
Oui, voilà.
Et plutôt sur les révolutionnaires, c'est quand même bizarre pour Becky de parler de révolution.
Oui, alors là, franchement...
What a surprise. Voilà, et d'autres choses européennes.
Voilà, ça va être peut-être plus européen cette semaine, encore que... On peut
moi je suis pas du tout européenne, mais enfin...
Oui, mais ça m'étonne pas. De toute façon, ton côté, je veux dire, rebelle. Voilà,
du coup, la semaine prochaine, tu feras de l'Europe.
Tout ouais, ça. Et nous, on sera ailleurs. Parce que la vérité est ailleurs. Voilà. Bon, quelqu'un veut-il se lancer? Parce que là, on...
Par la fenêtre, moi je veux bien.
Bon, pourquoi est-ce qu'on a choisi la politique comme thème? Parce que c'est quand même super comme thème.
Alors c'est varié en fait, c'est ça qui est encore difficile, hein. C'est que c'est hyper large et qu'il a fallu choisir.
Oui, évidemment, on va répéter une fois de plus à nos chers auditeurs et auditrices qu'effectivement il y aura des films qui ne seront pas parlementés ici, hein,
oui,
qui vont permettre cette expression.
On a essayé de choisir les films qui nous avaient vraiment touchés et qu'on avait vraiment aimés pour vous faire partager.
Voilà, oui, tout à fait. Voilà, donc Becky est en train de nous faire des langages de signes, ouais. Ce qui est hyper radiophonique.
Du coup, on comprend pas bien ce qu'elle veut nous dire. Mais je propose que Gwen, tu commences avec une petite sélection.
Oui, alors ma petite sélection. Donc effectivement, moi, quand on m'a parlé de politique, je me suis lancé peut-être plus sur les filles. Ben voilà, parce que c'est aussi des gens qui, enfin du moins... Voilà, c'est un genre. Bon, alors je me lance. Allez, The Queen de Stephen Frears. Voilà, donc en fait, c'est l'histoire.
Frears. Mon accent à chaque fois, ça me fait un effet.
Je sais, je fais beaucoup cet effet. Donc, c'est le combat entre Elizabeth Tudor et de son premier ministre Tony Blair à l'époque, hein, puisque suite au décès évidemment de Lady Diana le 31 août 1997. Alors là, dans ce film, Elizabeth est jouée par Helen Mirren et Michael Sheen joue Tony Blair. Hein. On voit que toute l'Angleterre est bouleversée par la mort de cette princesse, hein, dont on avait vu le fameux biopic d'Oliver Eugenstielberg en 2013. Et voilà. Et donc, en fait, Tony Blair, lui, est au plus mal dans les sondages et il voit là une opportunité de rassembler le pays derrière lui. Par contre, au château de Balmoral, Elizabeth reste totalement silencieuse. Elle ne comprend pas l'onde de choc qui se répercute en Grande-Bretagne. Et Blair veut évidemment souder la reine à son peuple devant le drame et de transformer les fameux funérailles que Elisabeth voudrait plutôt solennelles en funérailles populaires. Alors évidemment, c'est aussi une vision de la famille royale vis-à-vis de Diana, puisqu'on savait évidemment vis-à-vis des tabloïds que cette chère Diana était mise au ban, puisqu'il y avait cette fameuse histoire du prince Charles et de Camilla. Voilà, tiens, j'ai repris mon accent. Voilà. Donc moi je trouve que c'est évidemment le visage de cette reine qui paraît un peu paradoxal au 21e siècle, puisque évidemment on a affaire de nos jours plutôt à des assemblées parlementaires, que voilà, pour moi c'était vraiment une image un peu désuète que paradoxalement les Anglais apprécie, mais que effectivement elle est de plus en plus mal au niveau des sondages, puisque il faut savoir que la comment s'appelle, la famille royale quand même coûte de plus en plus cher à l'État anglais. Voilà.
Bah, oui, l'abolition des privilèges, quoi.
Ouais, oui, tout à fait, tout à fait.
On leur coupe la tête.
Voilà, comme en France. Est-ce que vous voulez rebondir ou est-ce que je continue?
Tu veux continuer avec une lady?
Oui, The Iron Lady de Phyllida Lloyd. Donc là, évidemment, l'histoire de Margaret Thatcher, la dame de fer.
La chanson de Renaud.
Voilà, effectivement, hein, joué ici merveilleusement par Meryl Streep. On a aussi Jim Broadbent qui joue Denis Thatcher, son mari, hein, qui est. Alors, en fait, pour situer l'histoire, c'est que là, elle a atteint quand même un âge quasi canonique, ce qui va bien avec la Dame de Fer. Et en fait, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, elle se souvient, paradoxalement, de sa vie, de sa rencontre avec Denis, avec qui elle entretient des conversations alors que celui-ci est décédé depuis longtemps. On voit évidemment son évolution dans le parti conservateur, qui la met un peu à banc, non seulement parce que c'est une femme, mais surtout parce qu'elle a des origines modestes, puisque son père était épicier.
Est-ce que tu es sûr que c'est surtout parce qu'elle a des origines modestes ?
Oui, 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 tout à fait. Oui, oui.
Parce que quand même, le fait d'être une femme, c'est une
grosse
star.
Mais, hein, bah, oui, non, mais c'était une tare, mais je pense que le fait qu'elle soit d'origine modeste, surtout qu'on est dans quand même le parti conservateur, qui est quand même ceux qui ont quand même des privilèges et une certaine noblesse. Mmh. On va voir son combat, parce que justement, pour rentrer au parti conservateur, pour évoluer, pour devenir à la tête du parti conservateur, devenir ministre de l'éducation et ensuite évidemment premier ministre. Il y a aussi le conflit qui va tenir un parti majeur dans le film, c'est évidemment la guerre des Malouines, hein, puisque là même quand le, je crois qu'il y a un ambassadeur des États-Unis qui arrive et qui dit à Madame Thatcher, non mais excusez-moi là, et qu'est-ce qui se passe, vous vous emballez pour une petite île, il n'y a rien du tout. Elle fait, oh, la dernière fois, vous, on vous attaquait sur votre île d'Hawaï, sur le Pearl Harbor. Et c'est là, évidemment, elle a dit, vous, vous êtes partis en guerre. Ben, nous aussi, on va regarder. Là, toute l'économie va passer dans cette guerre. Et il y aura aussi les grandes grèves et qui vont évidemment la pousser vers l'extérieur. Et voilà, donc c'est un grand film. Surtout, Meryl Streep est vraiment extraordinaire. Par contre, c'est vrai que comme dans certains films, comme dans La Chute, hein, qui retrace les derniers jours d'Hitler, c'est vrai qu'on a tendance à un peu à humaniser, à être même, entre guillemets, avec des gros guillemets, solidaire avec ces personnages. Alors
trop
que voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. On donne un côté un peu humain à une personne, à une dame.
Mais attends,
qui a
elle
été vraiment
humaine quand même.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord.
C'est un fait, quoi. Non, mais c'est un robot, la nana.
Non, mais elle était très droite dans ses bottes et je veux dire que les Anglais
elle
ont payé.
Elle était malade.
Voilà. Non, non, mais.
Bah non, mais clairement.
Oui, mais après, elle a été malade. Elle a été.
Non, mais elle était cinglée.
Non, elle était du parti conservateur, pur et dur, et elle n'avait pas peur de mâcher ses mots. C'est ce qu'on voit dans le film. Hein. C'est-à-dire qu'elle avait une idée et c'était aux autres à plier, pas à elle. Et c'est ça aussi qui est
et
terrible.
Tu sais bien ce que je dis.
Oui, non mais non mais parce que nous,
je pense qu'on est d'accord.
Ouais, mais je pense que c'est parce qu'on est aussi plutôt d'un avis de gauche que de droite. Je pense que voilà.
Comment?
Donc voilà, non, je pense que c'est vraiment un grand film et voilà, il est vraiment à voir, mais c'est vrai que je trouve que c'est peut-être un côté un peu dommageable que de lui prêter un visage, entre guillemets, humain.
En tout cas, ce qu'il reproche, c'est pas de dire que c'est pas une humaine, c'en était une, enfin à peu près, biologiquement parlant. C'est surtout d'être dans une empathie un peu excessive, ce qui fait justifier un peu les actes barbares de la dame.
Bah, c'est-à-dire qu'elle est là, pour l'occasion, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, tu vois, elle est diminuée. Forcément, je veux dire, en tant qu'humain, on a une empathie envers les personnes qui sont, entre guillemets, faibles. Donc c'est pour ça. Mais il faut savoir que quand même, à l'époque des grandes grèves, elle a fait charger les ouvriers à cheval, quoi. Et ils n'ont pas hésité à tabasser et à même elle est poussée à la famine. Donc voilà.
Est-ce que ça te fait pas rebondir ça, Anna?
Alors, Annaëlle aujourd'hui est hyper bondissante. Hein, elle ne cesse de bondir dans tout le studio. C'est même un petit peu.
Mais c'est Pâques.
Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Tu veux dire que c'est une cloche?
Donc je rebondis. Alors attends.
Oui, oui, elle rebondit. Elle est en train de bondir. Bondissement 1, bondissement 2. Bondis chérie.
C'est parti pour un petit extrait.
I do solemnly swear that to the best of my ability, I will support and defend the government of the Irish Republic against all enemies, foreign and domestic. And I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion.
Alors, est-ce que vous avez reconnu ce bout de bande-annonce qui, moi, me donne des frissons?
Et c'est William Wallace.
Bon, j'ai pas reconnu, mais ça m'a donné des frissons quand même, parce que la République d'Irlande.
Voilà, c'est ça.
Alors voilà, oui, c'était un extrait de la bande-annonce de Le Vent se lève, le film de Ken Loach, qui est sorti du coup en 2006. En fait, l'extrait enregistre le serment que font cette petite bande de paysans irlandais pour défendre leur pays. Alors, une des premières fois, parce que les Irlandais, c'est quand même un peuple qui a pas mal de problèmes avec la défense de leur territoire et de leur peuple, quoi, clairement. Ils ont, au fil des années, c'est assez incroyable. Et donc là, c'est en 1920, ils se battent contre l'invasion des Anglais, là, sanguinaires, les Bates States, Les Anglais leur envoient une armée pour les calmer parce qu'ils demandent des droits, quoi.
Ils demandent leurs terres, ils demandent
exactement.
À manger,
oui,
ils demandent des droits civiques, enfin des trucs de fou.
Des trucs de fou. Alors du coup, les Anglais envoient une armée quelque peu officieuse, un peu comme les légions étrangères, quoi, qui vont pour les démonter. Et donc là, les paysans irlandais sont obligés de. Voilà, c'est l'histoire d'un gars qui va renoncer à sa carrière de médecin pour aller se battre aux côtés de son frère, donc il y a un gros côté affect, tout ça. Mais c'est un bon film sur tout ce qui est engagement, l'individu et le groupe, pourquoi je me bats, si je me bats pas maintenant, ma vie sera meilleure, mais du coup, celle des autres, comment ça va se passer? Mon frère se bat, qu'est-ce que je dois faire? Et ça se passe en Irlande, donc dans les années 1900, comme je disais, et c'est vachement bien foutu au niveau de l'ambiance, des costumes et tout ça.
C'est vraiment un très très beau film.
Un très beau film, bon après, âme sensible, ça peut
se dire, voilà. Je confirme, oui.
De toute façon, tous les films sur l'Irlande, moi...
Enfin, sur l'Irlande du conflit, quoi.
Ouais.
Voilà.
Sinon, ça va.
Oui, juste pour donner un petit saut de puce, on a la version écossaise avec William Wallace, qui est aussi un film dur de Mel Gibson. Bon, certes, un peu romancé avec l'histoire de Sophie Marceau, mais enfin, voilà, c'est vrai que ce côté des Britanniques avec leur, entre guillemets, colonie, il y a beaucoup de guillemets aujourd'hui.
Oui. Enlève ces guillemets tout de suite. Notons que l'Irlande est toujours occupée. Hein.
Oui,
l'Irlande du Nord.
Et du coup, ça me faisait rebondir, encore une fois, je bondis. L'Irlande, Le Vent se lève, donc Ken Loach, pour moi, c'est le film à voir sur le conflit irlandais.
Je confirme. Irlandais.
Et après, il y a eu un autre film qui est sorti un petit peu avant, du coup en 2002, qui est un peu moins bon, mais qui est touchant aussi sur le fameux Bloody Sunday.
Il y en a eu deux.
Oui.
Deux Bloody Sunday. Deux lundis sanglants.
Voilà, c'est ça.
Sunday,
le dimanche.
Ouais. Parce que le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais.
Donc là, c'est sur le Bloody Sunday de 72. Affreux. Marche pour la paix, pour l'égalité et
pour
les droits civiques. Une marche pacifique. Les gens qui y vont, là, ils vont vraiment les mains dans les poches en se disant vraiment, on va marcher et on va chanter et ça va aller. Et ça devient, ça déborde complètement, ça se transforme en émeute. Et il y a 13 morts, je crois, tués par l'armée, là, comme ça. Voilà.
Bah oui, ça me fait un peu penser à ce qui s'était passé en 1976 à Soweto aussi. C'était une marche parce qu'on les obligeait à apprendre l'afrikaans et l'anglais au lieu de leur propre langue, et qu'il y avait aussi les histoires de passeport, puisque les Noirs devaient prendre un passeport pour entrer en ville et sortir. Donc il y avait eu des manifestations, et là aussi l'armée blanche sud-africaine avait tiré sur les manifestants, et là il y a eu un peu plus que 13 morts.
Et t'as pas de film ?
Sur ça, non, j'avais plusieurs films sur Mandela, dont le dernier, Un long chemin vers la liberté. Il y avait aussi une saison blanche et sèche sur Steve Biko. Voilà, mais sur ces événements, oui, c'est vrai que ce film-là, pour moi, il est très dur à prononcer déjà.
Une saison blanche et sèche.
Voilà.
Alors, elle n'a pas fini, excusez-nous.
Non, mais ça me faisait penser, donc voilà.
Oui, tout à fait. Et du coup, Sunday, Bloody Sunday, Bloody Sunday,
oui,
j'ai récupéré un extrait sonore.
Sunday, Bloody Sunday, vous êtes toujours sur RDWA, sur le www.rdwa.fr ou à l'écoute du 107.5 FM. Vous écoutez Arrête ton cinéma et on a écouté U2.
U2, on vous parle de politique.
Voilà, oui. C'était...
Des fois, il faut le faire.
Oui, voilà, tout à fait.
C'est à moi ?
Oui, c'est à toi.
Bon, moi, je vais parler d'un personnage ni européen, ni féminin, décidément.
T'es pas vraiment dans le thème. Voilà. Je trouve que
ouais.
Tu sors.
je me jette par la fenêtre.
Ouais.
Alors, bon, je vais vous parler du Che.
Ah, c'est bien le Che.
Ernesto.
De Chevènement ? Ah non.
Ernesto Che Guevara. Alors, bon, il y a eu plein de films qui parlent du Che, plus ou moins passionnants. Mais moi, je vais vous parler de deux films.
Mm-hmm.
Dans un premier temps, Carnet de voyage, dont le titre original est Diarios de Motocicleta.
Oui. Mmh.
Je sais pas, ça parle plus. Parce qu'ils sont à moto.
Voilà, c'est ça.
Ah oui, mais ça parle à tout. Enfin, quand tu dis Carnet de voyage, c'est quand même un film assez, aujourd'hui, célèbre pour que tout le monde pense à la moto, non ? Carnet de voyage, c'est un film tellement célèbre qu'il est même utilisé dans d'autres films comme un film que les acteurs du film vont voir, tu vois.
D'accord.
Ouais. C'est de Nini Corona.
D'accord. Ok, donc c'est un film avec plein de nationalités. Il est brésilien, chilien, américain, péruvien et argentin. Voilà, c'est Walter Salles et c'est en 2004 que c'est sorti. C'est basé sur les livres, enfin plusieurs livres, notamment des livres, des écrits de Duce et des écrits d'Alberto Granado. Et ça raconte leur voyage à travers l'Amérique du Sud qu'ils ont fait en 52, donc sur leur motocyclette. Et qui ont réveillé chez eux, enfin les rencontres qu'ils ont fait pendant ce voyage ont réveillé chez eux bah voilà, leur côté révolutionnaire et révolté. Et voilà, ils ont été témoins voilà, d'injustice sociale, de la misère, de tout ça.
Oui.
Et ça a créé le Che. En fait.
Oui, oui. Bah oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'Amérique du Sud, c'était pas.
C'était le bordel. Hein.
C'était
bah, c'est un peu le bordel encore, question de.
Ça commence à se redresser
ça
un peu.
Ça se redresse,
hein.
Parce que, je veux dire, à l'époque, il y avait aussi beaucoup d'entreprises, surtout américaines, qui avaient des bases et qui entretenaient des relations étroites avec les pouvoirs en place.
Mais pour moi, le Che, c'est surtout celui qui a dit non, en fait. C'est le premier qui a dit vraiment non aux États-Unis, quoi. Non, mais c'est bon. Stop. C'est fini. Et c'est ça qui est fou, parce qu'il y en a beaucoup qui sont révoltés, révolutionnaires, etc. Mais qui restent quand même dans ce système.
Non, si t'es vraiment révolutionnaire, tu dis vraiment non.
Oui, oui. Et puis, il faut savoir aussi que...
Oui, alors qui est vraiment révolutionnaire aujourd'hui?
Il y en a pas beaucoup.
Voilà. Et donc, lui, ça reste quand même un... C'est pas le mot modèle qu'il faut employer, mais une icône.
Oui, mais c'est une icône, hein, rien que les t-shirts déjà avec son effigie.
Peut-être pas la moitié des gens qui savent ce
que c'est.
Non,
mais ça, je suis d'accord. Non, mais puis il faut savoir que le Che était aussi en.
J'ai un pince du Che.
Moi, à la fête de l'Humain, une fois en 99, j'ai eu un béret.
Ouah, super. Et il était quand même. Enfin, il avait aidé, comme ça s'appelle, à Cuba. Lors de l'arrivée de comment ça s'appelle ça y est j'ai un truc de moi c'est génial m'aidez pas surtout
non, on
ne comprend pas bien de quoi tu veux parler.
Et ben qu'il a aidé comment ça s'appelle à faire tomber Batistuta et qu'il avait aidé comment ça s'appelle le nouveau à se mettre en place décidément je n'arrive plus
qui s'appelle
ah ben là super
ping
qui suis-je?
Le jeu des 1000 euros. Prenez le banco. Non!
Donc voilà, et il avait quand même obligé à ce qu'il y ait une éducation gratuite, et c'est ce qui fait que quand même.
Mais il a obligé.
Il a obligé, oui, oui.
Il a régi certaines choses, il s'est battu pour des droits. Et
voilà,
pour
ce
la
qui
liberté.
Fait que le Cuba, au niveau de l'éducation.
Au niveau de tout, Cuba, on peut y aller.
Oui,
comme la Bolivie.
Oui, enfin, la liberté de penser maintenant à Cuba, enfin, peut-être un peu moins maintenant que le frère a repris.
Elle fait signe que non, Becky.
Ça reste une grosse. Un gros totalitaire, mais.
Oui, voilà, c'est ça. Castro, voilà, merci.
Ça, c'est leur histoire.
Mais oui, non, mais depuis tout à l'heure, tu cherches Fidel Castro.
Merci, oui.
Oh, putain.
Bah oui, le dictateur. Bah, c'est-à-dire qu'il avait aidé, et puis quand il a vu que le vent tournait, il est reparti, et là, il a fait tout aussi des luttes en Afrique, puisque, je veux dire, après l'Amérique du Sud, ça a été, l'Afrique a été aussi, puisque c'était la fameuse époque de la guerre
en
froide.
En fait, Che Guevara, c'est un peu un pack. Tu l'appelles, il vient, il te fait ta révolution.
révolution tout en un. Un pack révolutionnaire. Vous avez donc voilà, la prise de pouvoir.
Vous avez le leader révolutionnaire, les chants
le
qui
look.
Vont avec. Ah, mais il a tout, hein. Il a tout, il a tout fait breveter. Et,
oui, oui, bah oui.
Puis quand tu repars, c'est bon, vous avez la place libre.
Voilà.
Bon, alors c'est un film qui a eu des prix, plein de prix. Et voilà, plein de prix, quoi.
Mais qui est très, très, très
franchement,
bien.
Il faut le regarder.
Tu dis que ça a révolté, leur voyage les a révoltés, mais moi, quand je vois ce film, j'ai envie de partir faire la révolution.
Mais vas-y, ma grande.
Mais vas-y.
Alors,
voilà.
Du coup, avant de parler du deuxième film, où là, dans mon deuxième film, il est mort, je vais vous mettre un peu de musique, parce que j'aime bien.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia.
dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Hasta siempre, Erdiwa.
Et voilà, on est toujours sur Erdiwa, on vient de s'écouter un petit peu la chanson du Che, Hasta siempre, comandante. Et tout ça pour parler de mon deuxième film, n'est-ce pas, et du Che. Donc le deuxième, c'est « Di buen dia a papa ».« Dis bonjour à papa », littéralement quoi. Mm. C'est un film, donc alors lui encore, je te dis pas, dès que l'instant que ça parle du Che, je sais pas pourquoi ils ont besoin de s'y mettre à 8 pays, donc cubano, argentino, bolivien.
Bah parce que oui, non, c'est important, sinon tu passes par un révolutionnaire direct.
Bah ouais. Du coup, c'est Fernando Vargas qui nous a fait ça en 2005. Et là, donc, c'est le film post-mortem.
Bah oui.
Voilà, donc il a été tué, évidemment, assassiné.
Oui, on peut le dire.
Voilà, le Che Guevara, voilà, la dépouille est exposée. Et après, elle est enterrée dans un lieu secret. Et donc ça, ce film-là, ça raconte en gros comment ça a atteint la population de la région, en fait, sur 3 générations. Voilà, ça raconte, c'est un espèce de truc, ça, en plusieurs dimensions. Là. On voit, on passe de génération en génération, on voit comment le même événement peut avoir des répercussions différentes et profondes dans cette région, dans ce... On sait quoi, à la Higuera.
Higuera. Voilà. Si.
Voilà, c'est tout.
D'accord.
Pour le reste, vous le verrez.
Enfin, c'est tout.
Oui.
C'est beaucoup.
Ouais, c'est... voilà. Peut-être un détail.
Ah oui,
vous.
Tiens, je vais rajouter un film, Karine Avoir. Enfin, Karine Avoir, non, c'est encore, on parle de. J'avais oublié de le noter, puis là, je m'en souviens. Alors, je sais pas grand-chose du film, mais quand même, si je peux donner un conseil aux auditeurs de ATC, c'est de faire des recherches dessus et de le trouver. C'est Ma vie entière en prison, qui parle de Mumia Abu-Jamal, mm-hmm. Black Panthers.
D'accord.
Voilà, et donc ça fait 25 ans qu'il est en taule, lui, aux États-Unis pour un meurtre qu'il n'a pas connu, qu'il n'a pas commis. D'un policier blanc, un truc savamment arrangé pour le faire taire et le mettre en taule. Et voilà, il y a encore des gens qui se battent pour sa libération et pour trouver son innocence, mais ça fait quand même voilà, 25 ou 27 ans qu'il est en taule.
Un peu comme. C'est... J'ai failli parler de Omar Mathieu,
oui,
le
aussi,
film
oui.
sur Omar Haddad. Mmh. Après, je me suis dit que dans le film sur la politique,
c'était moins politique. Alors que là, Mumia Abou-Jamal, clairement, lui, c'est un personnage politique.
Ben oui, oui. Voilà. Oui,
c'est lamentable.
Voilà. Donc, faites des petites recherches, Mumia Abou-Jamal. Il y a encore des actions en cours pour sauver la vie de cet homme.
Et ben moi je vais retourner en Europe, mais cette fois-ci au 19e siècle, voire même au 20e, puisqu'elle chevauche les deux siècles, c'est Victoria la reine, Victoria l'impératrice.
On peut dire
Victoria.
Que tu nous changes de contexte. Hein.
Oui, tout à fait, oui, oui. Bah, c'est-à-dire que ce sont aussi des personnes qui ont bouleversé leur époque. Hein. Pour l'occasion, le film s'appelle Victoria, les jeunes années d'une reine, de Jean-Marc Vallée. Alors là, c'est hyper romancé, hein, vous me direz. Ouais. Mais voilà, c'est parce que il faut savoir que quand même cette impératrice, donc qui a bouleversé son époque, puisque lors de son règne, le soleil ne se couchait pas sur l'Empire britannique, effectivement, puisqu'elle était reine du Canada, des Indes et donc de l'Australie aussi.
Et j'arrivais pas à comprendre où tu voulais en venir avec cette histoire de soleil qui se couche pas. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est?
Oui, mais c'était le dicton de l'époque. Et elle a fait quand même 63 ans de règne. Elle était partout. Et surtout qu'elle a eu de nombreux enfants avec son prince Albert, pas celui de Monaco. et ils ont épousé de nombreuses personnalités royales à travers l'Europe, ce qui fait qu'à une époque, on l'a distinguée par le titre de grand-mère de l'Europe. Et voilà, donc c'est basé sur sa première relation, puisque effectivement, elle est devenue reine à 18 ans. Hein, et elle a évidemment, là, il fallait lui trouver un époux. Et donc, c'est ce fameux prince Albert qui va la sauver. Elle a eu quand même plusieurs attentats. Hein, et puis, c'est aussi l'ère industrielle qui va quand même bouleverser aussi le monde moderne. Bon, et puis là, pour l'occasion, c'est aussi l'époque de Sherlock Holmes. Voilà. Voilà. Et puis, ce qui me fait rebondir sur une autre reine...
Rebondis sur la reine.
Eh oui, je rebondis beaucoup sur les reines. C'est Elisabeth. Elisabeth, là, par contre, c'est un film en deux parties. Là aussi, c'est pas Lucci, mais bon, voilà. Et c'est Elisabeth, et donc Elisabeth, l'âge d'or de Shakar Kapoor, qui est un réalisateur indien. C'est avec Kate Blanchett, qui joue évidemment magnifiquement cette reine. Et donc, c'est le règne de la reine vierge, hein, 1533-1600.
Oui, tu nous as fait remonter loin.
Voilà, c'est ça. Et oui, puisque c'était la fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, hein, celle qui a été exécutée 3 ans après la naissance de sa fille, hein, puisque vous savez que c'est Henri VIII qui a eu plusieurs épouses et qui, pour divorcer de son épouse, a créé la religion anglicaine où tu pouvais divorcer, qui a évidemment provoqué la ire
Mais
du Vatican.
Mais avant ça, il les faisait tuer.
Oui, Boleyn, il l'a fait exécuter. Évidemment, elle... oui, voilà.
On s'emmerdait à divorcer.
Voilà, c'est ça. Et en fait, donc, sa sœur Marie, elle est pour l'occasion catholique. Elle va être atteinte d'un cancer de l'utérus, puisque à l'époque, Elisabeth était en prison puisqu'elle avait aidé ses amis protestants. Et donc, Marie va l'obliger à devenir reine et évidemment à épouser plutôt le côté catholique de la foi, ce qu'elle ne fera pas. Et évidemment, dès qu'elle est reine, toutes les cours vont s'empresser d'envoyer des prétendants, puisque à l'époque c'est la guerre entre l'Empire germanique qui tient l'Allemagne et l'Espagne, et aussi là, évidemment les Français, puisque là on va envoyer le duc d'Anjou. Alors là par contre il y a une petite erreur d'histoire, puisque c'est Alençon qui se présente et pas le duc d'Anjou, qui est joué ici par Vincent Cassel, et évidemment présenté par le monsieur de foi qui n'est autre que Éric Cantona. Voilà. Et oui, on a une belle version. Un peu olé olé, d'ailleurs, le duc d'Anjou, hein, qui aime beaucoup s'habiller en robe. Donc, une belle définition de la France. Et évidemment, là, il va y avoir, puisqu'elle est amoureuse d'un petit baron qu'elle connaissait depuis son enfance. Et lui, il va être soutenu par la couronne d'Espagne pour que l'Angleterre puisse tomber dans le giron espagnol et germain, puisque c'est Charles Quint à l'époque, hein, c'est Charles V.
Qui sont les actrices qui jouent la reine et sa sœur?
Sa sœur.
Il n'y a pas sa sœur, t'as pas parlé de sa sœur?
Non, sa demi-sœur, c'est Marie. Ah.
Oui, mais sa demi-sœur. Non, j'ai pas parlé de sœur.
Non, mais c'est une demi-sœur. Bah oui, parce qu'elles n'ont pas eu la même.
Qui sont les actrices?
Alors c'est Kate Blanchett qui joue la reine Elisabeth. Donc voilà. Et puis
la demi-sœur, tu sais pas?
Non, c'est une
actrice. Tu sais pas.
Non, mais je sais pas. Non, non, mais.
Pas la question.
Mais non, mais elle, on la voit très peu hein, au début du film. Et puis
oui,
c'est
mais
tout,
c'est voilà. Pas grave, tu sais pas. T'as pas voilà, obligé de tout savoir tous les puis, acteurs de tous les films, en quelle année ils sont nés, en quelle année
oui,
ils
non,
sont
mais voilà. Et puis, en fait, évidemment, au début, elle va avoir du mal à régner, évidemment, en partageant entre la France et l'Empire germanique. Et là, elle va être aidée par Sir Francis Walsingham, qui est joué par Geoffrey Roche. Et donc voilà, et elle va refuser, suite à une histoire de complot, à épouser quelqu'un. Elle deviendra cette fameuse reine vierge, donc la dernière des Tudors.
Soit disant.
Voilà, c'est ça. Et puis, oui, oh, non, mais je veux dire, elle épousera personne, quoi. Il y a le deuxième film, donc L'âge d'or. Et donc, c'est 30 ans après le couronnement. Là, elle a comme adversaire Philippe II, le roi d'Espagne, qui, lui, en a marre que l'Angleterre soit protestante et a envie qu'elle devienne catholique. Donc, c'est évidemment l'histoire de l'invincible Armada, hein, cette fameuse cohorte de bateaux espagnols qui, évidemment, sont tous tombés grâce à un orage, à une tempête et qui les avait tous coulés. Et là, elle va avoir une histoire d'amour avec Sir Walter Raleigh, qui est joué ici par Clive Owen. Et c'est évidemment l'époque des pirates dont on avait déjà parlé. Voilà.
Toi,
donc
tout se croise dans la tessie.
Oui, mais voilà, c'est ça. Ben, c'est pour ça que j'ai parlé, parce que évidemment, Victoria, c'est l'époque de Sherlock Holmes. Et Elizabeth, c'est l'histoire des pirates. Et évidemment, c'est Pirates des Caraïbes. Puisque, évidemment, c'est l'histoire aussi où l'Espagne est florissante, ainsi que le Portugal, et que l'Angleterre a envie de dominer. Ce qui me fait bondir, puisque je fais rapidement, comme ça je vous laisserai parler. Ensuite, la dernière reine, enfin du moins ma dernière reine, voilà, de mon paquet de cartes, c'est la reine Margot de Patrice Chéreau en 94.
Non, je vous serai tous pendus.
Voilà, donc c'est la vie de la cour de France entre les noces vermeilles et évidemment le massacre de la Saint-Barthélemy.
Avec Isabelle Adjani.
Voilà, Isabelle Adjani, Vincent Pérez, Michel Bozé hein, qui joue De Guise. Voilà, et il y a Jean-Luc Anglade qui joue Charles IX. Henri III qui est joué par Pascal Grégory.
Voilà, on en avait déjà parlé.
Voilà,
Grégory.
Tout à fait, tout à fait. Et alors là, évidemment, c'est la guerre entre les protestants et les catholiques. Et grâce ou à cause de ce mariage, les fameuses noces vermeilles, puisque c'est le sang sur la robe de la mariée, qui vont faire que tous les protestants vont venir à la capitale. Et là, il va y avoir un attentat sur l'amiral de Coligny, qui joue ici, si je m'en rappelle bien, par Jean-Claude Brialy. Voilà, quelques jours plus tard, évidemment, le roi Charles IX va avoir peur, poussé par sa mère, évidemment Catherine de Médicis, hein, toujours aussi éclatante, toujours aussi merveilleuse.
Il est Médicis,
c'est ça. Et quelques jours après, ce sera évidemment le massacre de la Saint-Barthélemy. Et Henri de Navarre, futur Henri IV, sera protégé par son épouse, Marguerite de Valois. Et évidemment, il sera obligé à être converti à la religion catholique, ce qui lui fera dire évidemment cette fameuse phrase « Paris vaut bien une messe ». Voilà, c'est un très grand film par un homme de théâtre, un Patrice Chéreau, qui est disparu d'ailleurs l'année dernière. Donc c'est vraiment un très très grand film, évidemment, avec Noir de récompense. Encore une fois, un César pour Isabelle Adjani.
Ah bon ?
Et oui, la record woman des Césars. Donc voilà. Donc c'est quand même trois grandes dames. C'est vrai que Elisabeth, pour l'occasion, et Victoria ont vraiment bouleversé leur époque, ce qui est peut-être moins Marguerite de Valois, mais elle identifie bien son époque, hein, puisque c'était évidemment ces fameuses guerres intestines qui ont bouleversé le royaume de France entre protestants et entre catholiques. Voilà, c'est pour ça que moi je disais qu'il fallait en parler de ces fameux trois reines. Voilà, c'est mon Charlie Angels.
Ok, c'était ton Charlie's Angels.
Oui, parce que c'est trois filles.
Et ben moi, quand on m'a demandé politique de travailler là-dessus, je voulais travailler sur cette vague de fascisme qui envahit l'Europe de manière cyclique et régulière.
Oui, tout à fait, oui.
Oui, régulière, très, très régulière.
Ouais. J'ai l'impression qu'on est en train de repartir dans un cycle.
C'est turnaround.
C'est fou, hein.
Non, du
tout.
Vous
croyez ?
Mais non, le monde est beau.
Anna. Oui, aimez-vous tous les uns les autres. Voilà, on a besoin d'amour.
Donc du coup, j'ai voulu parler d'un film dont je vous ai certainement déjà parlé, puisque je ne note pas absolument tout ce dont je parle dans ATC. Mais c'est un film qui me tient vraiment à cœur, c'est La Vague, qui est sorti en 2008, un film de Dennis Gansel, c'est allemand. C'est l'histoire d'un professeur qui est plutôt anard quand même, qui est carrément anard, qui vit sur une maison sur pilotis au bord d'un lac et qui est prof de politique, mais qui adore faire des cours sur Che Guevara carrément, tu vois, il est révolutionnaire comme mec. Et ce type, il se retrouve dans son lycée, c'est la semaine de formation, de découverte de formation en Allemagne, et tous les ans, il fait la formation sur l'anarchie. Et il explique aux élèves ce qu'est l'anarchie. Et puis là, cette année, par un concours de circonstances un peu à la con, il se retrouve à devoir faire la formation sur le totalitarisme. Et quand il parle du totalitarisme à ses élèves au départ, tous les élèves, c'est un peu leur pote quand même, c'est un prof pote, lui disent « Non mais attendez, là c'est bon, ça nous gave. Ça va, la guerre, Hitler, le dictateur qui a tué des milliards de personnes, il n'y a pas de souci, on l'a, hein, c'est bon. Ça se reproduira jamais. » On nous en parle tout le temps. Le devoir de mémoire, ça commence à nous gaver grave. C'est des ados qui portent cette espèce de fardeau. Voilà. Et en fait, du coup, là, lui, il est choqué parce qu'il se dit « Waouh, vous êtes sûr que ça n'arrivera jamais ?» Et il va commencer à mener une expérience pour leur montrer comment on endoctrine des gens. Et pourtant, c'est des gens qui savent que oui, c'est une expérience. Ouais. Hein. Et donc, c'est une expérience visant à expliquer le régime totalitaire. Ça devient un jeu de rôle grandeur nature et ça dépasse complètement ses objectifs et ça devient ça a des conséquences abominables sur cette petite ville allemande. Et donc je vous invite vraiment à le regarder, La Vague.
Tu fais bien de parler du devoir de mémoire parce que là j'ai regardé dernièrement une carte sur la montée des extrémismes et bizarrement l'Allemagne c'est le seul pays où ça monte pas quoi. Donc c'est ça qui est quand même assez fabuleux. En France ça monte bien, en Italie ça monte bien, et l'Espagne aussi, et bizarrement je pense que en Grèce aussi, et je pense que l'Allemagne aussi parce que ils ont un devoir.
En Italie ça monte aussi et pourtant ils ont eu Mussolini, enfin tu vois.
Oui, mais il y a eu moins, ça a été moins
je
appliqué.
Je pense pas qu'on puisse faire de généralité.
Regarde la Russie, enfin tu vois,
vraiment.
Mais ça c'est différent.
Non mais vraiment, on peut pas faire de généralité là-dessus, c'est dangereux, c'est tout, faut pas l'oublier, il faut continuer de se battre.
Oui, mais c'est ça.
En Allemagne, ils ont aussi des extrémistes et des néo-nazis et c'est très très dur pour eux parce que en plus avec cette espèce de culpabilité nationale qui leur est inculquée, du coup. C'est d'autant plus difficile de se battre contre les néo-nazis. Mais ce film explique bien qu'il ne faut, vraiment jamais lâcher prise sur le fait de se battre chaque jour contre ces extrémismes. Quoi.
Ouais, tout à fait.
Donc voilà, c'était mon premier film. Et le deuxième, c'est Le Dictateur, qui est sorti en 1945 de Charles Chaplin avec Charles Chaplin. L'homme qui s'est présenté à un concours de sosie de lui-même et qui n'a pas gagné. Donc, c'est rigolo parce qu'en France, il est sorti le 1er avril 1945. C'était une audience très minuscule puisque la fin de la guerre, c'est le 2 septembre. Hein, donc, c'est pas encore, la fin de la guerre n'est pas déclarée. Mmh. Les gens ne sont pas allés au cinéma en masse. Mais ça a fait, c'était le premier film sur Hitler en le tournant en ridicule, quoi. Et finalement...
C'était un peu frais, peut-être. Ouais. Tu vois, peut-être qu'à l'époque, on aurait dit non, mais c'est un peu tôt. Hein.
Oui, mais alors, pour l'occasion, je veux dire, certes, tout le monde comprend que c'est Hitler, mais enfin, il n'est pas nommé comme ça. Hein.
Non, il ne s'appelle pas Hitler.
C'est impossible de ne pas comprendre.
C'est impossible de ne pas comprendre.
Oui, non, mais ça, d'accord. Oui, mais pour l'occasion.
Donc, c'est un film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, très, très drôle. Mm-hmm. Et puis, finalement, quand on réfléchit, on rit jaune. Mais un film plutôt drôle sur un barbier qui devient un dictateur par une espèce de coïncidence.
Oui, parce qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau.
Voilà, et du coup, le pays s'appelle la Tamanie.
La Tamanie, oui.
Et du coup, il y a tous les croix gammées, c'est pas des croix gammées, c'est deux croix l'une sur l'autre. Ouais. Tout est ressemblant.
Oui, c'est le dictateur Hinkel.
Voilà, c'est tout est ressemblant sans être vraiment
une parodie d'Hitler, mais si, c'en est une carrément.
Oui, oui, puis c'est évidemment ce fameux passage où Hinkle joue avec la map, enfin, pas la même monde, mais une sphère où il y a toute la planète, quoi. Et je trouve que
un globe terrestre.
Un globe terrestre, merci.
Voilà. Oui, il y a ça, puis il y a le fameux discours de fin. Où finalement, ce discours qui est toujours d'actualité, où il dit « j'ai voulu faire de mal à personne, je veux pas être dictateur, je veux pas être... j'ai voulu juste être là pour les hommes, les femmes, les juifs, les athées, tout ça, les païens, machin. » Et donc, Chaplin, qui était très drôle, mais aussi très engagé. Et donc, moi, je vous ai sorti une petite chanson de « Derrière les fagots », qui est plus humoristique qu'autre chose, pour... que, voilà, parce que pour moi en ce moment la montée du FN en France c'est dangereux, ça me fait peur, ça me rend triste et ça me donne envie de vomir. Donc du coup, comme je suis assez accablée, je me suis dit on va en rire.
Mon papa à moi est au FN. Mon papa à moi est au FN. Il a voté pour Jean-Marie Le Pen.
Sorti tout droit d'une campagne folle, tous les étés m'emmène à Vitrolles. Fatigué des élections agitées, il dit que c'est pour se reposer, mais il fait des clins d'œil quand l'ascenseur vient. Mais il est obligé parce qu'il en a qu'un. Il m'a offert un jeu de fléchettes avec une carte de l'Algérie pour que je m'entraîne à tirer comme lui. Pour le cas où il irait à Mantes-la-Jolie agresser le maire avec ses amis et dire au tribunal qu'il ne l'a pas touché. Même s'il y avait des caméras qui étaient braquées sur toi, mon petit papounet, moi je te crois. Il me donne des balles pour tirer sur les biches et des conseils pour coller les affiches.
Ne jamais pousser l'autre dans la scène le premier.
Mais seulement quand le sale arabe l'a cherché. Quand il me parle de la guerre, il me dit que c'est rigolo. Hitler et Klaus Barbie sont ses super-héros. Mon papa il est gentil, il aime pas les méchants. Sa couleur préférée c'est le blanc. Quand il entend pimpon, on l'évapore. Parce qu'il a beaucoup trop d'argent pour qu'on lui dise qu'il a tort.
Mon papa à moi est au FN. Mon papa à moi est au FN. Il a voté pour Jean-Marie Le Pen. Mon papa à moi est au FN. Mon papa à moi est au FN. Il a voté pour Jean-Marie Le Pen.
Fils, tu sais, les livres d'histoire touchent pas à ça. Si les gens en avaient lu, ils auraient pas voté pour moi. L'ignorance des électeurs, ça rapporte à la peine. Alors fais pas le con si tu veux toujours ton fusil à Noël. Le savoir est une arme. Maintenant tu sais qu'il est important que ceux qui votent pour moi soient désarmés.
Quand j'arrive au cours de trompette, les gens me prennent la tête. À la chasse au sanglier, les gens viennent me parler.
Bébé, ton père, aime-t-il les trois gamins? A-t-il déjà tué? Aime-t-il Bruno Maigret?
Après je vois ta tête sur les journaux, comme un facho qu'on peut pas traîner devant les tribunaux.
Quand tu incites à la haine, on veut toujours t'écraser. On peut même plus pousser quelqu'un dans la scène pour rigoler. C'est eux les immigrés, laisse tout ça pour le moment. Je t'expliquerai ma version de la seconde guerre mondiale une fois plus grand. Et s'ils continuent à t'énerver, dis-leur bien que tous les week-ends, on a pris Gilles Bardot qui vient.
Mon papa à moi est au FN. Mon papa à moi est au FN. Il a voté pour Jean-Marie Le Pen. Mon papa à moi est au FN. Mon papa à moi est au FN. Il a voté pour Jean-Marie Le Pen. Mon papa à moi est au FN. Mon papa à moi est au FN.
Donc RDW, mon papa à moi est au FN. C'était une chanson qui avait été faite par le 6-9, quand c'était encore Michael Youn et son équipe. Là, bref, ouais, le morning.
Le morning, là.
Voilà. Et encore un humoriste qui finalement n'était pas si bête que ça. Parce que pour moi, cette chanson, elle est quand même criante. Et on parlait de musique pendant qu'elle passait.
Du coup, on a décidé qu'on en allait en repasser.
On va en
fait.
Repasser ouais. parce que la musique.
Ça nous a inspiré en fait.
C'est pas mal aussi. Et, et ouais, tous les ans, il y a les collectifs de rap hip-hop qui sortent les 11 minutes contre le fascisme. Mmh. Et là, cette année, c'était Akhenaton qui menait le truc. Donc du coup ouais, Gwen et moi on est des grands fans.
Je
les
confirme.
Ai vus trois fois en concert, on écoute tous leurs titres. Bref, donc du coup I Am et les 11 minutes contre le racisme, si vous avez voilà, vous pouvez les écouter. Et Becky nous m'a parlé d'un autre collectif.
Ouais, alors avant, je vais quand même laisser Gwen parler de son dernier film, qui a rien à voir, je suppose.
Oui.
Mais juste, j'annonce donc que on finira
en musique.
On finira en musique avec ouais, c'est rigolo. Je l'ai déjà passé dans une autre émission, ce morceau, mais voilà.
Voilà. Eh bien, moi, c'est The Lady de Luc Besson, sorti en 2011. Hein, l'histoire d'une femme d'exception, Aung San Suu Kyi, hein, la fille du général Aung San, qui avait négocié l'indépendance de la Birmanie. Alors, évidemment, le film, d'ailleurs, commence avec l'assassinat de son père et qui parle de son engagement contre la junte militaire. Le film va parler de son retour en Birmanie jusqu'au soulèvement populaire des moines bouddhistes en 2007. Mais il parle aussi de cette histoire d'amour entre Aung San Suu Kyi et Michael Harris, qui est ici joué par David Thewlis, le fameux Lupin de Harry Potter. Et Aung San Suu Kyi est joué par Michelle Yeoh. Finalement, ce sera cornélien entre le devoir... son devoir d'aider son peuple et celui de suivre sa famille, puisqu'elle va être assignée à résidence de force durant de nombreuses années. Et par contre, son mari, lui, va doucement, mais sûrement mourir d'un cancer dans la prostate, et ainsi que ses deux fils vont...
Cancer dans la prostate.
Un cancer de la prostate, oui madame.
Un cancer dans le cerveau,
voilà.
Un aussi. Cancer dans la hanche, un cancer dans le sein, tout ça.
Non, voilà. Partout.
Partout les cancers.
Et il y a même des concerts de Michael Jackson, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, évidemment, ces deux fils grandissent sans elle. Il y a évidemment sa victoire un peu illusoire en 90, puisqu'il y avait eu des élections, elle avait été élue, la junte avait refusé, et il y avait aussi ce fameux prix Nobel en 91 qu'elle n'avait pas pu aller chercher, puisque évidemment si elle sortait du pays, elle ne revenait plus. Donc voilà, c'est un très bon film, voilà, qui explique peut-être pas tout. Il est vrai qu'on reste un petit peu en surface, on voit pas tout, mais c'est aussi un peu le problème de pas mal de films un peu politisés, c'est-à-dire que pour nous autres Français, ça échappe un petit peu, parce qu'on n'a pas toutes les règles, toutes les clés pour comprendre, mais c'est quand même un film d'actualité, puisque évidemment Aung San Suu Kyi a été libérée. Elle est devenue d'ailleurs députée avec son parti de la Ligue Nationale pour la Démocratie, et d'ailleurs elle se présente aux prochaines élections l'année prochaine. Malencontreusement, il y a un vice de procédure, puisqu'elle a épousé un étranger, et que si elle épouse un étranger, elle ne peut pas se présenter en tant que...
Ils ont fait passer le décret en attendant.
Non, mais voilà. Bah, non, mais ça est arrivé aussi en Afrique. On a eu des trucs aussi où ça a parti un peu en outre boudin. Au niveau des élections, il fallait avoir des ancêtres de plusieurs générations. Et après, il y a eu de l'apuration dans tout ce qui était administratif. Donc voilà, c'est un très, très beau film. Voilà.
Alors, pour finir, moi, je dirais que là, on vous a donné... quelques films, quelques pistes, mais qu'il y a plein de films qui parlent de politique, et notamment, parce que là on a l'air quand même très branché révolution, hein,
oui.
Qui parlent notamment voilà, de fascisme, de révolution, de plein de choses comme ça. Et donc vous avez plein de films à trouver
voir.
Et à voir.
Ah, oui.
Et puis en voilà. Plus, la semaine prochaine, on vous donne encore de nouvelles pistes de réflexion.
Voilà. Alors comme cette semaine, on n'aura pas de pestel, et ben c'est pour ça que notre cher Becky va nous lancer une petite musique.
Mais juste avant, c'est la minute pub pour
oui.
Les copains de Erdiwa quand même.
Oui,
parce
vas-y.
Je vais passer à un morceau doublement représentatif de Erdiwa. Un petit coucou à Youssef de Emergency Pop le dimanche soir à 21h,
mm-hmm.
qui vous passe du hip-hop
de 21h à minuit.
Voilà.
Voilà, à partir de 21h.
100% quoi. Rap indé.
Voilà.
Ouais.
Et puis Coton-Tige qui finit, voire des fois qu'on colle encore plus dans son émission, qui finit par du hip-hop rouge et noir,
et
antifasciste.
Une café spéciale.
La 88, c'est ça
que j'ai écouté ouais. Dernièrement sur tes conseils et qui est très bonne.
Ouais, qui est excellente. Alors du coup, bah, c'est grâce à ça que j'ai découvert... si tu me donnes le câble, par contre, ça va mieux marcher.
Ah oui, tout à fait.
Oui, parce que mes filles se partagent un câble.
Oui, on aime bien ça. Attention, ça va faire
non,
du
bon. Partage non, partage tout, on est des copines.
Voilà, et donc c'est le super collectif Marée Ride qui va vous balancer antifasciste. Je vous préviens, ça arrache, il est pas encore 19h. Voilà, désolé auditeurs pour ça. Moi, je trouve que c'était bien bon, ça. Même si c'est un peu violent pour l'heure qu'il est. Et puis, bon, non, tant pis, ça fait un peu d'éducation. Quoi.
Voilà, tout à fait. Zut, n'ayons peur de rien.
Puis, bah, je trouve que ça clôture bien une émission qui parle de politique. Et puis, nous, eh ben, on est engagés, on a pas de tabou, on le dit,
oui,
tant pis.
Oui, les tabous nous en viendront à bout. Oui, je l'ai
en tout
sorti.
Cas, la semaine prochaine, on vous reparle de politique,
voilà, c'est
avec
ça,
notre politique partie 2.
Voilà, politi parti.
On va continuer notre tour du monde parce qu'on fait quand même, on parle de plein de pays.
Ouais, ouais.
Et puis du coup, ce sera peut-être l'occasion pour moi de resélectionner un peu de musique. Écoute.
Voilà. Ouais, ben bah, pas
de
soucis.
Pas du hip hop.
Et ben, chers
un peu de punk.
Voilà. Comme par hasard, dis donc.
Dis donc.
Oh, c'est étonnant.
C'est parce que j'en ai. Enfin, j'en ai quoi.
Voilà, tu en as.
Parce qu'elle aime pas ça.
Moi, ouais, ça m'étonne pas, elle préfère la valse musette.
Oui, ah ça j'adore.
Oui, ah, oui, eh ben, oui. Voilà. Donc on confirme, Becky aime la valse musette. Donc si tu es un admirateur de Becky, tu peux lui envoyer de la valse musette.
Ah oui, ah, oui, oui, ça.
Voilà. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, nous clôturons ainsi notre première partie sur la politics, la politique
tout
réalité, et nous, nous disons aux filles, enfin moi je dis au revoir aux filles et à la semaine prochaine.
Et nous on dit au revoir aux garçons.
Voilà,
ouais,
c'est
au revoir aux garçons.
Au revoir aux garçons. Bisous.
Salut.
Life is like a box of chocolates.